Le journal est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Le Royaume-Uni sortira de l'Union, quoi qu'il arrive. Le 31 octobre, le gouvernement britannique le confirme officiellement, mais à quel prix ? Des documents confidentiels publiés par le Times font état d'un quasi-chaos, et ce ne serait pas, selon le journal, le scénario du pire. Des centaines de milliers de manifestants à Hong Kong, sans incident, les pro-démocratie ont réussi leur nouvelle démonstration de force contre l'exécutif local jugé trop favorable à Pékin. L'Open Arms ne fera pas route vers Algésiras, le navire humanitaire en ancré devant Lampedusa, a jugé irréaliste la proposition du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, lequel voulait surtout dénoncer au passage l'attitude du ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. Dans ce journal également, le président Trump qui voudrait faciliter le licenciement des personnes transgenres. Des médecins qui s'inquiètent d'une pénurie récurrente de certains médicaments. Ils ont des propositions à faire pour y remédier. Les pompiers sur les nerfs après la double agression du week-end dans les Yvelines et en Corse, ils disent être abandonnés par les pouvoirs publics. En sport, 0-0 entre Reims et Strasbourg, match nul un partout entre Saint-Etienne et Brest. Ce soir, suite et fin de cette deuxième journée de Ligue 1, Rennes-PSG. Le 15 de France qui retrouve des couleurs, toujours en bleu mais moins fade, 5 essais hier soir contre les Écossais, à confirmer bien sûr samedi prochain. Le journal des sports, c'est dans un instant, avec Vincent Pellegrini. Et puis la météo, 12 départements en vigilance orange aux orages, du centre-est au nord-est, de nouvelles perturbations demain dans les Pyrénées, en Auvergne et Rhône-Alpes. Il l'avait promis, il le fait. À Londres, le nouveau gouvernement de Boris Johnson annonce ce soir avoir ordonné pour le 31 octobre l'abrogation de la loi d'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. C'est la date prévue pour le Brexit qui a été reportée déjà deux fois. Mais nous quitterons l'UE à cette date, quelles que soient les circonstances, précise dans un communiqué le ministre en charge du Brexit. Pour Boris Johnson, qui doit rencontrer cette semaine Angela Merkel et Emmanuel Macron, c'est une façon de faire monter la pression, bien sûr. D'autant que ce matin même, des documents confidentiels publiés par le Sunday Times brossent un tableau très sombre de la situation en cas de no deal. Tableau brossé par le gouvernement lui-même et qui fait état d'un quasi-chaos. Aude Soufi à Londres.
Nom de code Yellowhammer, mais le Sunday Times l'a rebaptisé Opération Chaos, tant la situation décrite par ce dossier confidentiel du gouvernement est préoccupante. Jusqu'à 85% des camions qui traversent la Manche ne seraient pas prêts pour les autorités douanières françaises. Les perturbations dans les ports pourraient durer jusqu'à 3 mois avant une éventuelle amélioration du trafic. Conséquence, des pénuries d'essence, de nourriture dont les prix augmenteront et de médicaments puisque le Royaume-Uni importe les 3/4 de sa consommation par le tunnel. Les passagers et des aéroports et des gares devront aussi s'attendre à des retards. Selon les documents du gouvernement, le rétablissement d'une frontière physique entre les deux Irlandes est probable en cas de no deal. Les plans actuellement envisagés pour éviter des contrôles généralisés se révéleront inapplicables. Le dossier prévoit en réaction des manifestations, des blocages sur les routes et des actions directes, entraînant une mobilisation accrue des forces de l'ordre et sans doute une augmentation des effectifs pour faire face aux protestations qui auront lieu dans tout le pays. À Londres, Aude Soufi, France Inter.
Selon le Times, ces prévisions du gouvernement ne présenteraient pas un scénario du pire, mais bel et bien les répercussions probables d'un Brexit sans accord, ce que dément ce soir le gouvernement qui dénonce l'alarmisme des anti-Brexit. À Hong Kong, ils voulaient une nouvelle démonstration de force, ils ont réussi leur coup. Les responsables du Front civique des droits de l'homme, qui avaient appelé la population à se mobiliser à nouveau ce dimanche, peuvent être satisfaits. Des centaines de milliers de personnes sont venues défiler de façon pacifique contre l'exécutif local jugé trop favorable à Pékin, et ce malgré une pluie battante. Valérie Crevard.
La pluie battante n'a pas entamé la détermination des manifestants qui avaient pris leur parapluie. Ironie de l'histoire, alors qu'il y a 5 ans, les Hongkongais défiaient déjà les autorités à travers la révolution des parapluies. Le mot d'ordre de ce nouveau rassemblement a été respecté, non violent, comme les organisateurs l'avaient demandé. Cela n'a pas empêché les milliers de participants de clamer leur principale revendication. Nous sommes pour la démission du chef de l'exécutif et on fait aussi tout pour le vote au suffrage universel, car le gouvernement ne nous entend pas. Les manifestants étaient pour la plupart habillés en noir, la couleur de la colère contre leur gouvernement et contre la police de Hong Kong. Ce qu'on constate, c'est que la police ne traite pas les citoyens comme elle devrait. Elle outrepasse son pouvoir envers les citoyens et c'est ce qui nous met en colère. Ashley, 22 ans, n'était pas là en juin pour les premières manifestations. Mais cette fois, elle a décidé de venir contre l'avis de sa famille.
Mes parents ne sont pas d'accord, mais je manifeste. Je comprends pourquoi ils disent que la manif va bouleverser l'ordre de la société. En fait, c'est le but.
Bouleverser l'ordre établi par Pékin que ces jeunes ne veulent plus avoir à subir. Hong Kong, Jérémy Tuil, Valérie Crova, France Inter.
En Afghanistan, le plus meurtrier des attentats visant les civils depuis le début de cette année. 63 morts au moins et plus de 180 blessés en pleine fête de mariage à Kaboul. Attentat kamikaze revendiqué par le groupe État islamique qui dit avoir visé des apostats, en l'occurrence des chiites. Les talibans qui tentent de négocier un accord de paix avec les Américains ont de leur côté aussitôt dénoncé cet attentat. Un nouvel épisode pour rien dans le feuilleton de l'Open Arms. Le navire humanitaire espagnol, toujours ancré devant Lampedusa, avec plus d'une centaine de migrants à bord, a reçu ce matin une proposition du gouvernement Sanchez à Madrid. Proposition d'accoster à Algeciras, tout au sud du pays, dans le détroit de Gibraltar. Ce qui n'avait aucune chance d'être accepté par l'ONG, compte tenu des distances. D'ailleurs, selon ses porte-paroles, la situation à bord est hors de contrôle et insoutenable. Pas question de faire encore 5 jours de mer. Ce dont se doutait évidemment le gouvernement espagnol, qui sans doute a voulu forcer la main des Italiens. Pierre Chaperon à Madrid.
Alors oui, la proposition de l'Espagne a été refusée par l'Open Arms. Trop longue, plus de 1700 km séparent les côtes de Lampedusa où se trouve l'embarcation humanitaire au port de Algeciras en Andalousie, ce qui représente au moins 5 jours de navigation. Mais une nouvelle fois, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en a profité pour tacler le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. Face à l'urgence humanitaire, l'Espagne fustige la position de l'Italie alors que la situation à bord du bateau est insoutenable. Lassé de devoir assumer seul ce qu'il appelle le défi migratoire dans cette partie de la Méditerranée, le gouvernement espagnol est fatigué face à la position de l'Italie. Pedro Sanchez en profite pour rappeler qu'il faut établir rapidement une solution et insiste sur les valeurs de progrès et d'humanisme de l'Union européenne. Allusion à peine voilée à Matteo Salvini. Madrid, Pierre Chaperon, France Inter.
Hier encore, après le débarquement de 27 mineurs non accompagnés de l'Open Arms, Matteo Salvini avait réitéré son refus d'accueillir les migrants restant à bord. Pour lui, c'est l'ONG qui est responsable de leur détresse. Ce midi, la France, qui s'y était déjà engagée avec 5 autres pays européens, s'est dit prête à accueillir 40 de ces migrants parmi ceux qui remplissent les critères du statut de réfugié. À Gibraltar, non loin d'Algeciras, pas question pour les Britanniques de saisir un pétrolier iranien comme les Américains le leur avaient demandé. Pour les autorités du Rocher, c'est évidemment le droit européen qui s'applique encore. Or, le régime des sanctions de l'Union contre l'Iran n'est pas celui des États-Unis. En conséquence, le pétrolier retenu depuis plusieurs semaines à Gibraltar va pouvoir reprendre la mer. Aux États-Unis, justement, mais qu'a donc le président Trump contre les personnes transgenres ? Après leur avoir interdit de s'engager dans l'armée, voilà qu'il demande aujourd'hui, par l'intermédiaire de son ministre de la Justice, qu'il demande à la Cour suprême d'autoriser les licenciements sur le simple motif qu'une personne aurait changé de sexe. Tout est parti d'une décision judiciaire donnant raison le mois dernier à une employée licenciée, Grégory Phillips à Washington.
Il y a 6 ans, Amy Stephens écrit à son employeur, une entreprise de pompes funèbres de la banlieue de Détroit, pour l'informer de son changement de sexe et que désormais, elle travaillera en tant que femme. Son patron la licencie, mais le mois dernier, le tribunal donne raison à la salariée et condamne l'entreprise. La justice invoque le Civil Rights Act de 1964 et qui interdit toute forme de discrimination et notamment celle en raison du sexe biologique d'une personne. C'est donc cette disposition que l'administration Trump attaque en saisissant la Cour suprême des États-Unis. Aux yeux du ministère américain de la Justice, le texte de 1964 ne peut pas s'appliquer aux personnes transsexuelles. Si la Cour suprême suit cette recommandation, alors cela permettrait à toute entreprise de licencier un employé trans en vertu de sa simple identité de genre. Ce n'est pas la première fois que l'administration Trump tente ainsi de limiter les droits des personnes trans. Depuis le printemps, elles n'ont plus le droit de s'engager dans l'armée. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et pour couronner le tout, une clause de la loi Obamacare qui protège les transgenres de toute discrimination dans le système de santé devrait être prochainement abrogée. Article complet sur ce sujet à consulter sur franceinter.fr.
Le journal de 19h sur France Inter.
9 jours maintenant qu'il a appelé les secours en Italie, toujours aucune nouvelle de Simon Gauthier, 27 ans, parti en randonnée du côté de Policastro, au sud de Naples. Dans un message envoyé le 9 août, il disait être tombé d'une falaise et avoir les jambes cassées, sans savoir précisément où il se trouvait. Une trentaine de ses amis et de ses proches participent aux recherches, dont Héloïse. Arrivée sur zone il y a quelques jours, elle fait le point au téléphone d'Ariane Grissel.
Depuis mercredi, on reprend son itinéraire. On quadrille les zones, on se géolocalise tous ensemble sur Facebook pour savoir quelle zone on a fait, où passe, qui manque. Voilà, on s'organise comme on peut et on va vraiment ratisser la zone à fond, quoi. Et on fait avec nos moyens du bord. Mais voilà, on est déterminés, on est là et on va le retrouver, quoi.
Vous avez lancé une cagnotte parce que ce sont des recherches qui coûtent cher aussi.
Oui, on a lancé une cagnotte parce qu'on est parti d'urgence quand on a appris la disparition. Sinon, on n'a pas hésité. Après, il ne faut pas se mentir, c'est des moyens qui coûtent cher. Il faut pouvoir se payer un hôtel, tout ça, ça coûte de l'argent, les voitures de loc, etc. Nous, on n'a pas tellement d'aide logistique ici. Rien n'a été spécialement installé pour nous.
Voilà, cagnotte ouverte sur le site onparticipe.fr. 1500 euros ont été récoltés à ce jour. Quand des médecins s'alarment d'une pénurie de médicaments, ce n'est pas nouveau, mais le phénomène se multiplie et parfois s'aggrave. Près de 900 cas de pénurie ont été signalés l'année dernière en France, 20 fois plus qu'il y a 10 ans. D'où l'appel ce matin dans le JDD d'une vingtaine de médecins qui font part de leur inquiétude et avancent quelques propositions. Parmi eux, le professeur Grimaldi, spécialiste en diabétologie à la Salpêtrière. Il est au téléphone de Bernard Thomasson.
La première, c'est qu'il faut imposer qu'il y ait des stocks. Pour l'électroménager, vous pouvez faire du flux tendu. Pour des choses d'usage commercial, du flux tendu. Mais pour des médicaments, il est indispensable d'avoir des stocks. Imaginez qu'il y ait une pénurie d'insuline.
Pourquoi n'y a-t-il pas de stock aujourd'hui? Pardonnez-moi cette question un peu...
Eh bien, parce que pour des raisons de rentabilité, on est dans une concurrence, le coût le plus bas, le coût le plus bas, le coût le plus bas.
Si on ramenait la production en Europe, ça coûterait plus cher, par exemple?
Alors, deuxièmement, il faut ramener, mais pour des raisons de sécurité. Que ça coûte plus cher ou pas, oui, ça coûterait plus cher, un peu plus cher, mais enfin, le principe actif n'est pas l'essentiel du coût. Donc, il faut ramener en Europe, effectivement, pour des raisons de sécurité, les principes actifs. Et puis, il faut pénaliser les big pharma qui, elles, empochent les bénéfices importants quand le médicament est sous brevet, pendant les 20 ans, puis ensuite on les intéresse. Et donc il faut qu'il y ait des pénalités quand il y a des ruptures.
Les big pharma, c'est les industries pharmaceutiques, c'est les fabricants,
c'est les énormes industries pharmaceutiques, Novartis, MSD, Sanofi. Pour la santé, l'industrie ne peut pas être réglée seulement par la question du profit.
Pour les signataires de cet appel, des pénuries portant sur une quarantaine de médicaments essentiels en cancérologie pourraient conduire à des décès prématurés. Pour l'interdiction de la chasse aux trophées à l'occasion de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction qui se tient actuellement à Genève, 50 députés européens et une cinquantaine d'organisations de défense de la nature demandent que les chasses à caractère récréatif ciblant des animaux en danger soient complètement proscrites. Un grand nombre d'espèces pourraient être concernées, dont les rhinocéros et les éléphants, mais aussi des girafes, des crocodiles et certains primates comme les chimpanzés. L'arrestation d'un automobiliste très particulier ce matin en Haute-Savoie, ses deux enfants sur la banquette arrière et le corps de son épouse dans le coffre, dans une valise. La famille rentrait d'Italie. La police, qui disposait d'un renseignement, avait diffusé un avis de recherche. Une enquête pour meurtre a bien sûr été ouverte. Les deux enfants de 6 et 7 ans sont en bonne santé. Les pompiers sur les nerfs. Après les agressions de ce week-end dans les Yvelines et en Corse, la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels refuse de s'en remettre à la fatalité. Les agressions, c'est devenu notre quotidien, explique son président André Goretti, qui dénonce une mauvaise gestion publique de cette situation. Il est au téléphone de Maïwenn Bordron.
Notre corporation porte l'uniforme, donc ça représente aujourd'hui l'État. Il y a des gens qui ne supportent pas ce qui peut représenter l'État. Ensuite, il y a un abandon de la population. Les services ne répondent plus à la demande, quelle que soit la demande. Donc nous sommes le dernier maillon de la chaîne des secours. Mais il faut que la réponse soit adaptée et dans les temps impartie à cette réponse. Alors comment vous mettez beaucoup de temps et vous avez de moins en moins de moyens en termes d'effectifs, ben le temps est prolongé et les gens deviennent agacés. Et comme ils n'ont plus de réponse adaptée, ils s'en prennent aux sapeurs-pompiers. Le gouvernement n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que le service public de secours, il est malade. Il est malade parce qu'il y a des dysfonctionnements forts par manque d'effectifs, par manque de moyens, et personne ne veut l'entendre au niveau du gouvernement. On a le soutien total de la population, on est abandonné totalement par ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous emploient.
Ce matin à Calvi, un homme a agressé le pompier qui lui venait en aide. Samedi, c'est un ado de 15 ans qui s'en était pris aux deux pompiers venus le secourir après une tentative de suicide. Les pompiers qui sont en grève depuis la fin juin, grève symbolique bien sûr, ils se contentent de porter un brassard. À propos des pompiers, 4000 personnes évacuées ce soir d'une zone touristique sur l'île espagnole de Grande Canarie, où un incendie qui a déjà ravagé depuis hier plus de 1500 hectares n'a toujours pas pu être contrôlé. Plus de 600 pompiers sont mobilisés, mais les conditions climatiques sont difficiles et les vents très forts. Les routes, des difficultés ce soir au nord de Paris, Romain Berchet.
Oui, à cause d'un double accident, d'abord sur l'autoroute A1 en direction de la capitale, avant le Bourget, 5 km de bouchons et au moins 50 minutes d'attente dans ce secteur. Pas très loin de là, autre accident sur l'A3 pour rejoindre l'autoroute A1 au niveau d'Aulnay. Vous patientez 10 minutes dans les 3 km de ralentissement. Le trafic est aussi chargé en direction de Toulouse sur l'A62. Les voitures impliquées dans un carambolage ont été dégagées, mais il reste encore un bouchon de 8 km au niveau de Saint-Sauveur lorsque vous venez de Bordeaux. Dans la vallée du Rhône, les difficultés se font principalement dans le sens des retours. Le trajet Orange vers Lyon se fait en 2h55 au lieu d'une heure et demie d'habitude.
Romain Berchet au PC Mobilité de Radio France. Le temps, c'est avec Jean-Pierre Hameau.
De la région centre-est au nord-est, 12 départements sont en vigilance orange ce soir et la nuit prochaine pour une activité orageuse localement violente. Demain matin, nous allons retrouver notre perturbation des Pyrénées aux frontières du nord-est en passant par l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. Les plus associés seront encore soutenus, voire orageuses entre le Dijonais et la Franche-Comté. Partout ailleurs, votre matinée sera plus calme avec d'assez belles éclaircies. L'après-midi, prévoyez encore une écharpe nuageuse des Pyrénées à l'Auvergne et du Lyonnais au Jura débordant sur les deux Savoies. Des averses se produiront encore par endroits. Dans les autres régions, les éclaircies vont prédominer. Et puis côté température, les maximales seront généralement inférieures aux moyennes de saison, comprises entre 19 et 24 degrés. Comptez 19 à Brest, 21 à Lille et La Rochelle, à peine 22 degrés dans la capitale ainsi qu'à Metz, Besançon et Lyon, 23 à Tours, Grenoble et Toulouse, 24 à Limoges et Auch. Prévoyez 27 à 31 près de la Grande Bleue.
France Inter, 19h17, on passe au sport. Avec vous, Vincent Pellegrini, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Et on commence par le foot, la deuxième journée de Ligue 1 de football. En attendant, Rennes-PSG tout à l'heure, deux rencontres se disputaient cet après-midi.
Oui, l'un de ces deux matchs vient de se terminer. Reims recevait Strasbourg au stade Auguste Delaune, où l'on retrouve Antoine Martin. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Vincent.
Triste match nul 0-0.
Un match très fermé en première période, mais nous avons eu des occasions en deuxième, une chacune. Les Strasbourgeois, un corner joué à la Rémoise, pied de nez au stade de Reims, et une tête à bout portant de Djikou et la parade du gardien rémois Rajkovic. Et puis dans les derniers instants, une frappe de Rémi Houdin, meilleur buteur du stade rémois l'an passé. Une frappe qui a donné des frissons à tout un stade qui a cru au but, mais le ballon avait touché les filets en sortant. 0-0 dans ce match pauvre en occasion. Les Rémois ne peuvent pas rejoindre Lyon et Nice en tête de la Ligue 1 avec deux succès en deux matchs. Strasbourg n'a plus gagné au stade Auguste Delaune depuis 14 matchs. Les Alsaciens avaient certainement la tête ailleurs, Vincent.
Alors, c'est l'occasion effectivement de dire que cette équipe strasbourgeoise a déjà bien entamé sa saison, hein, puisqu'elle dispute depuis plus d'un mois les tours préliminaires de la Ligue Europa et c'est pas fini.
Aujourd'hui, c'était le sixième match depuis le début de la saison des Strasbourgeois. Il y a eu le deuxième tour préliminaire face au Maccabi Haïfa, puis le troisième tour face aux Bulgares de Plovdiv et les Strasbourgeois qui vont disputer un barrage face à Francfort. Alors Francfort, c'est un gros morceau de la Ligue Europa, demi-finaliste l'an passé. Ils avaient perdu face au vainqueur final Chelsea. Le match aller aura lieu à Strasbourg à la Méno jeudi. Match retour le week-end, la semaine d'après, toujours jeudi cette fois-ci au stade de Francfort. Et il va falloir être un peu plus ambitieux dans le jeu pour éliminer ce gros morceau et prétendre aux phases de poule de la Ligue Europa pour les Strasbourgeois.
Merci Antoine Martin en direct de Reims. Cet après-midi, Saint-Etienne a concédé le nul à domicile face au Stade Brestois. Un partout, des Verts qui n'ont pas su enchaîner un deuxième succès cette saison en Ligue 1. La frustration de leur capitaine Loïc Perrin.
C'est pas ce qu'on espérait pour commencer à domicile. Je pense qu'on a fait une bonne entame de match. Malheureusement, on n'arrive pas à faire la décision. Et puis après, on a été sanctionné dans notre passage un peu compliqué, c'est-à-dire en fin de première mi-temps. On a souffert un petit peu. Et après, quand on court après le résultat, c'est toujours un peu compliqué. On revient au score plutôt logiquement quand même, mais un peu tard dans la partie. Voilà, ça va être un peu le type de match qu'on va souvent rencontrer quand même à Geoffroy Guichard, où les équipes vont venir pour jouer un peu en contre.
Le capitaine Stéphane Loïc Perrin au micro de Rodolphe Montet.
Et le dernier match, c'est donc tout à l'heure le PSG, toujours sans Neymar, sur la pelouse du Stade Rennais.
Les deux équipes qui se sont imposées lors de la première journée. Bonsoir Bruno Salomon.
Bonsoir Vincent.
Vous êtes au Roazhon Park qui sera comble pour cette affiche. C'est la troisième confrontation en quatre mois entre ces deux équipes.
Oui, ils ne se quittent plus, ils s'aiment, ils s'adorent. En tout cas, Rennes adore le Paris Saint-Germain, puisqu'on rappelle qu'en fin avril dernier, Rennes a battu le PSG en finale de Coupe de France. Ça a fait grand bruit, ça a été un match un peu particulier. Et depuis, effectivement, ces équipes ne se quittent plus, puisqu'ensuite, il y a eu une deuxième rencontre du côté de la Chine, du côté de Shenzhen, pour le trophée des champions. Là, c'est le PSG qui s'est imposé. On va dire que c'est la belle aujourd'hui, sur ces quatre mois, bien sûr, entre Rennes et le PSG. Le PSG qui adore venir ici, du côté du Roazhon Park, puisque le PSG est invaincu ici au Roazhon Park en Ligue 1 depuis, imaginez, 2011. Donc le PSG va tenter d'enchaîner une nouvelle fois ou un succès, voire ramener un point minimum de ce déplacement en Bretagne.
Alors un PSG déjà sous pression, Bruno, vu le début de saison étincelant de l'Olympique Lyonnais qu'on présente comme le rival possible des Parisiens cette saison.
Oui, ils ont mis en appétit les Lyonnais, cette équipe du Paris Saint-Germain, pour avoir discuté un petit peu avec certains dirigeants, même aujourd'hui là en bord de pelouse. Tout le monde a parlé de cette prestation, ce 6-0 contre Angers de la part des Lyonnais, et ça fait finalement, ça met sous pression ce PSG qui ne peut pas se rater. Ce soir, imaginez si le PSG venait à perdre ou à perdre juste déjà 2 points, Lyon pourrait partir tout seul en tête du championnat. Et quand on sait que ces deux équipes, Lyon et le Paris Saint-Germain, vont se rencontrer à la 6e journée de Ligue 1, on se dit qu'il faudrait peut-être que les deux équipes soient à 15 points chacune pour que ça fasse des étincelles. En tout cas, le PSG aime avoir un concurrent et Lyon semble le vrai concurrent cette saison du PSG pour le titre de champion.
Rapidement, Bruno, le dossier Neymar toujours au point mort.
Écoutez, j'ai fait tout le tour du stade, du Roazhon Park. Il n'est pas là. Ou en tout cas, il n'a pas fait le déplacement avec le Paris Saint-Germain. Mais ça, on le savait, Thomas Tuchel l'avait annoncé. Il s'entraîne, bien sûr, avec son équipe. Mais sur le dossier, on le rappelle, il pourrait très bien y avoir le 2 septembre une surprise de ce Neymar qui resterait du côté du PSG. Ce n'est pas terminé. Le mercato se termine le 2 septembre. Il nous reste encore 14 jours très exactement à tenir. Courage à tous ceux qui ne sont pas fans de mercato et aussi aux supporters du PSG sur ce dossier Neymar.
Merci. Bruno Salomon, Rennes PSG, coup d'envoi à 21h.
Alors ça va bien pour Lyon, Vincent, mais deux grands noms du football français sont déjà en difficulté en ce début de saison, l'OM et Monaco.
Ouais, les Monégasques battus à domicile 3-0 par l'Olympique Lyonnais lors de la première journée. De nouveau battus 3-0 hier chez un promu, le FC Metz. Les Monégasques derniers du classement. C'est à peine mieux pour l'Olympique de Marseille, accroché hier à Nantes 0-0. Les Marseillais ne comptent qu'un point. Comme la saison dernière, on grimace du côté de l'OM et de son gardien et capitaine Steve Mandanda.
On sait que ça va être une saison compliquée. On sort, d'une saison très très délicate, très difficile. On a des difficultés, mais on reste solidaire et puis on continue d'avancer. Le championnat est encore long. C'est sûr qu'on aurait espéré faire mieux et commencer avec 6 points. Mais on continue, il faut travailler, on le savait, on savait que ça allait être compliqué. On le voit aujourd'hui, donc on a un match important et difficile qui nous attend aussi à Nice. Donc ça sera comme ça tous les week-ends.
Steve Mandanda avec Cédric Guillou.
En rugby, le 15 de France a donc réussi hier soir sa première étape vers la Coupe du Monde qui débutera dans un mois au Japon.
À Nice, les Bleus de Jacques Brunel ont nettement battu l'Écosse 32-3 en inscrivant 5 essais. Cela faisait longtemps que ce 15 de France en souffrance depuis plusieurs années n'avait pas remporté un match en y mettant la manière. Bien sûr, cette équipe d'Écosse a été bien palote hier, mais il y a beaucoup d'enseignements positifs à tirer de ce net succès, estime notre consultant rugby Guy Akosebéry.
On trouve une équipe qui commence à jouer comme une équipe, qui est capable de garder le ballon, de multiplier les temps de jeu, de marquer des essais, de finir ses actions, une bonne redistribution des joueurs. On sent que les joueurs savent où il faut aller, ils arrivent avec de la vitesse, là, tout ce qu'ils ne maîtrisaient pas depuis quelques mois. Donc, en peu de temps, le temps d'une préparation, je pense que Fabien Galthié est à l'origine de cette résurrection. Donc voilà, de belles choses, il faut pas s'emballer parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais quand même de très belles satisfactions. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est que l'équipe, tout en essayant bien sûr d'être bonne dans ce secteur-là, a réussi à conserver ses bases, c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'a pas pris d'essai, elle a bien défendu, bon, en conquête, en touche, on a eu, je crois, 2 ballons perdus, là, il y a encore, je veux dire, c'est plus du réglage, du perfectionnement, mais le fait de ne pas prendre d'essai en plus est une très bonne chose, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'au secteur offensif, on maintient quand même les bases et surtout la défense. Les Écossais ont quand même essayé pas mal de choses, mais ils n'ont jamais pu franchir la ligne tricolore, donc... Là aussi, c'est un très bon point pour cette soirée.
Le consultant rugby de France Inter, Guy Akosseberry, avec Camille Revel. Deuxième match de préparation, Yves, pour le 15 de France, samedi prochain, toujours face à l'Écosse, mais à Édimbourg cette fois. Et ce sera sûrement plus compliqué, car les Écossais vont enregistrer le retour de plusieurs joueurs cadres. Dernier match de préparation pour les Bleus, le vendredi 30 août, au Stade de France, face à l'Italie. Ensuite, départ pour le Japon, premier match dans cette Coupe du Monde. Match décisif, le 21 septembre, face à l'Argentine.
Autre équipe de France qui s'échauffe en vue d'une Coupe du Monde, celle de basket, et elle aussi a bien négocié ses matchs de préparation.
C'est à l'Astrobal de Villeurbanne que les coéquipiers de Nicolas Batum ont disputé 3 matchs en 3 jours, bilan 3 victoires face au Monténégro, au Brésil et l'Argentine hier soir. Un bon tremplin avant de partir en Chine, la Chine qui accueillera ce mondial. Le sélectionneur des Bleus, Vincent Collet.
C'était un tournoi intéressant, c'est ce qu'on avait cherché. L'idée, c'était d'avoir des adversaires un peu différents. Donc une première équipe européenne, ensuite 2 équipes sud-américaines pour voir des choses différentes. Mais toutes des équipes qui nous ont posé des problèmes. Nos leaders ont répondu présent. Puis il faut qu'on continue à avancer sur le collectif, que les remplaçants trouvent leur place. Ce qui me semble clair, c'est qu'on a fait des avancées. Maintenant, ça n'est pas suffisant. On a besoin de travailler un encore pas mal de choses, d'autant plus que notre 5 majeur est amputé de 2 de ces éléments. Donc ça oblige déjà à réfléchir sur les équilibres. On a déjà cherché des appareillages, mais il faudra continuer à le faire pour voir ce qui fonctionne moins bien et trouver un maximum d'efficacité. On a 2 semaines devant nous. Là, on va jouer un favori de la compétition, voilà, avec la Serbie, peut-être le grand favori de la compétition. Donc ça sera intéressant de tirer des enseignements de ce match-là.
La Serbie que les Bleus affronteront en Chine le 27 août, ce sera d'ailleurs le dernier match de préparation avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde de basket, le 31 août.
Allez, on le présente comme le Tour de France des moins de 23 ans, le Tour de l'avenir. C'était lancé jeudi du Lot-et-Garonne.
156 coureurs au départ de cette 56e édition. Arrivée prévue le 25 août en Savoie. Un Tour de l'avenir suivi de très près par les directeurs sportifs des équipes professionnelles. Car de grands noms du cyclisme se sont révélés dans cette course. De Laurent Fignon au Colombien Egan Bernal, récent vainqueur du Tour de France. Philippe Colliou est le directeur de la course. Et au micro de Fabrice Abgral, il nous détaille ce qui fait l'intérêt et la richesse de ce Tour de l'avenir.
Le Tour de l'avenir, il a été créé par le journal L'Équipe en 1961. C'est une épreuve qui, dès ses origines, a servi de révélateur pour les futurs et qui a participé à la globalisation, à la mondialisation du cyclisme. Des Colombiens, des Sud-Américains qui sont arrivés en Europe et qui se sont illustrés sur le Tour de l'avenir. C'est pareil pour les pays de l'Est. Les Africains découvrent l'épreuve. On a une équipe d'Érythrée cette année qui devrait, je pense, avec le profil qu'on leur propose, s'illustrer également. C'est une épreuve où on retrouve bien évidemment les nations historiques du vélo, mais qui participent également à la mise en avant des futurs champions des autres continents et qui donnent l'opportunité à ces jeunes coureurs de se révéler aux yeux du grand public, mais également aux yeux des équipes pro.
Quels sont les grands champions depuis 1961 qui ont remporté le Tour de l'avenir, qui se sont révélés au Tour de l'avenir, les grands champions?
Plusieurs coureurs ont remporté le Tour de France et ont remporté le Tour de l'avenir. On peut citer Felice Gimondi, Jobs Zoetemelk, Miguel Indurain, Laurent Fignon et Egan Bernal récemment. Mais surtout, si on prend l'exemple du Tour de France 2019, on remarque qu'on a Egan Bernal, mais on a également Julien Alaphilippe qui a éclaté et qui remporte le maillot vert et la dernière étape du Tour de l'avenir en 2013. Warren Barguil, champion de France, gagne le Tour de l'avenir en 2012. Nero Quintana gagne le Tour de l'avenir en 2010. Le vainqueur des Champs-Élysées, l'Australien Caleb Ewan, remporte le maillot vert du Tour de l'avenir et plusieurs étapes au sprint il y a 4 ans également. Donc, sans parler des vainqueurs du Tour de France, les coureurs qui aujourd'hui s'illustrent au plus haut niveau, et notamment sur le Tour de France, très généralement, on voit qu'ils se sont, quelques années auparavant, mis en valeur sur le Tour de l'avenir.
Bernal avait remporté l'épreuve il y a 2 ans. Quand il a remporté l'épreuve, il n'avait que 20 ans. Déjà, vous sentiez en lui l'étoffe d'un champion?
Bah, il avait gagné relativement facilement hein, le Tour de l'Avenir en 2017. Et c'est là que vraiment on l'a découvert. Hein. On le connaissait pas vraiment avant. Mais le fait qu'il maîtrise les étapes les plus difficiles, hein, on a vu que c'était un coureur qui, après une semaine de course, était très clairvoyant, très bon techniquement et au-dessus du lot.
Voilà Philippe Colliou, le directeur du Tour de l'Avenir cycliste. Et puis à une semaine du début de l'US Open de tennis, le Masters 1000 de Cincinnati offre ce soir une finale inédite et inattendue. Vainqueur surprise hier en demi-finale de Novak Djokovic, le russe Daniil Medvedev va affronter le belge David Goffin qui a battu hier Richard Gasquet.